Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Europe 1,
On de la raconte.
Cote B.
Nous allons nous pencher sur le cas de Jacques Ranson, le tueur de la gare de Perpignan. Au milieu des années 90, Jacques Ranson a tué et violé Mokhtaria Chaïb, 19 ans, et Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans. Il leur a à toutes les deux découpé les seins et les parties génitales. Et il a décapité Marie-Hélène Gonzalez et lui a tranché les mains. Il a fallu 17 années d'enquête avant de l'arrêter. Ouvrir la côte B de son dossier d'instruction s'annonce passionnant. L'experte psychologue Daniel Cani rencontre Jacques Ranson 4 mois après son arrestation en 2014. Il n'est atteint d'aucune maladie mentale et c'est un homme qui cherche à plaire à tout prix, y compris à elle.
Alors, avant de rencontrer les personnes, et donc Ranson en particulier, j'ai accès au dossier, dans l'état où il est au moment où ma mission m'est envoyée, au moment où je suis commise.
Daniel Cani, experte psychologue.
Je n'ai pas identifié de troubles de type psychiatrique, je n'ai pas identifié de déficit intellectuel. C'était quelqu'un qui était parfaitement adapté à la situation d'entretien. Il était incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers depuis 4 mois. Et il avait été placé à l'isolement, bien entendu, parce que sinon les autres co-détenus lui auraient fait sa fête. Donc il avait essayé de changer d'aspect pour se dissimuler, s'était poussé la barbe, essayer de ne pas être reconnu comme le psychopathe, le violeur en série qu'il était. C'est quelqu'un qui a un problème narcissique majeur, un problème d'image. Et donc, il était très difficile de se confronter au regard supposé, rejetant et voire haineux d'autrui, compte tenu de ce qu'il avait fait. C'est quelqu'un qui n'est pas stupide. Il avait très bien compris qu'il était haïssable par autrui, étant donné les dégâts qu'il avait faits. Donc, il essayait de se dissimuler au regard d'autrui. C'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas.
Côte B4, rapport de l'experte psychologue Daniel Cani. Jacques Ranson a 54 ans. Il se montre suffisamment coopérant, mais ne cherche pas à savoir la motivation de ses passages à l'acte. Il fournit quelques réponses sans le vouloir, entraîné par l'échange, sans que cela n'entraîne pour lui une vraie réflexion sur ce que ses confidences dévoilent de ses fonctionnements psychiques.
Donc Jacques Ranson, il est né le 9 mars 1960 dans la Somme.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction.
Ses parents ont un gros écart d'âge. Son père a 20 ans de plus que sa mère, je crois. Le père de Jacques Ranson est décrit comme quelqu'un d'alcoolique, de violent. Sa mère est décrite comme quelqu'un qui a des limites intellectuelles.
Il est très critique. Donc c'est une image de très mauvaise qualité, cette image maternelle.
Daniel Cani, experte psychologue.
Et en même temps, il a besoin d'elle. Il va manger avec elle tous les jours. Il est malheureux quand il la perd. Donc qu'est-ce qu'il attend de cette... J'ai parlé... Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attendait de sa mère ? Je pense qu'il attendait de l'amour et une affection qui certainement n'est jamais venue parce qu'elle était en incapacité de se positionner en tant que mère équilibrée, satisfaisante, etc. Et tout ce qu'il me dit d'elle, c'est que c'était une mauvaise image de femme. Et ce qu'il dit aussi, c'est que elle le frappait beaucoup. Elle le frappait beaucoup à coups de martinet. Il me dit, j'ai pris des raclées, je me cachais sous le lit, elle me tirait, elle me donnait des coups de martinet. Donc on est dans un contexte de violence, d'absence d'amour.
Jacques Ranson va grandir sans savoir, dans l'ignorance du fait qu'il y a toute une fratrie avant lui.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction.
Plus d'une dizaine d'enfants qui ont tous fait l'objet de placements. par l'aide sociale à l'enfance et on ne sait pas pourquoi lui n'a pas été placé. Donc il va vivre avec ses parents quasiment comme un fils unique. Je crois que c'est à la mort de son père, avec le livret de famille, qu'il va découvrir qu'il y a toute une fratrie. Et il va donc avoir quelques liens avec une de ses sœurs. Et son instituteur qu'on retrouve, qui est encore en vie quand on fait cette instruction, va nous raconter que... J'ai souvenir d'une anecdote où il y avait un pique-nique qui était organisé à l'école avec les enfants de l'école. Et donc chacun a amené un sandwich. Et lui, il est arrivé avec une boîte de cassoulet. Et quand il venait à l'école, il avait des vêtements trop grands, rapiécés. Et c'est l'une de ses sœurs qui va nous raconter que bon, ils vivent dans une masure en terre battue, que bah, des fois ils dorment dehors parce que le père est violent, alcoolisé, et que du coup ils peuvent plus réintégrer la maison. Et c'est ça son enfance, Jacques Ranson.
Même moi, j'ai eu une enfance aussi malheureuse que lui.
La sœur de Jacques Ranson.
Puisque ma mère m'embrassait jamais, de toute façon, j'ai jamais été... Hein, moi, j'ai jamais eu d'affection, jamais rien, on couchait dehors, tout ça. Mon père est rentré sous, fallait se barrer parce que réellement, il était méchant avec nous. Et puis, on allait courir dans des étables-à-vaches, là où on dormait. On dormait dans les étables-à-vaches. On rentrait le lendemain matin savoir s'il était calmé. C'était calme, donc on pouvait rentrer. Hein. Nous avons habité dans un baraquement avec des rats, tout ça, pas d'eau, rien du tout. Et chercher l'eau en face de chez nous, chez les voisins. Et mon père, à la mort de ma mère, a repris une dame très, très peu de temps après. Il a fallu qu'on s'en aille, hein, nous.
Bah, à la maison, on manquait de tout. Moi, j'en avais honte. À l'école, ils se moquaient tous de moi. J'étais leur souffre-douleur, quoi. Le pas beau, quoi. Celui qui pue. Un jour, les autres enfants, ils m'ont même dévissé la roue de mon vélo pour que je me casse la gueule. Ils étaient méchants. Il y en a un, ils me tapaient tout le temps. Pour moi, la vie était pas bonne. Je me dis que j'ai été malheureux toute ma vie.
Il se définit comme le petit malheureux du village, celui avec lequel personne ne voulait jouer.
Daniel Cani, experte psychologue.
Il dit qu'il n'avait pas d'amis. Il accuse les autres, les petits camarades, de malveillance à son endroit. Puis il décrit un sentiment de rejet, un sentiment de solitude. À tort ou à raison, c'est sa version, c'est sa représentation de lui. Alors ça, c'est quand même très important pour l'analyse que l'on peut faire par la suite au plan de ses passages à l'acte. J'ai été le petit malheureux du village, celui dont personne ne voulait, celui qui était rejeté par tous. Et il va, toute sa vie, avoir un ressenti de rejet, de dégradation, de dévalorisation de lui-même qu'il va reporter sur les femmes de la façon que l'on sait.
Le corps de la jeune femme gisait dissimulé sous les branchages, la tête et les deux mains tranchées sans que les enquêteurs puissent les retrouver, comme si on avait voulu sciemment éviter toute identification. Dénudé, le cadavre était dans un état de décomposition avancé, la mort remonterait à plusieurs semaines.
Ma première rencontre, c'était le 13 février 2015.
Daniel Cani, experte psychologue.
Ce qui est intéressant à grand sens, c'est qu'à la fin de l'entretien, qui dure entre 2 et 3 heures environ, où on a parlé de tas de choses de sa vie, on a quand même beaucoup travaillé, en tout cas moi j'ai travaillé sur son enfance, son ressenti, etc., etc. Et ce que j'ai retenu donc de plus important, c'est qu'à la fin de l'entretien, au lieu de me demander si j'avais compris ce qu'il m'avait dit, lui, il m'a juste demandé si je ne l'avais pas déçu. C'est-à-dire qu'il était dans une position de séduction, et pas du tout d'échange constructif, analytique, introspectif. Il était vraiment dans la séduction. J'espère que je ne vous ai pas déçu, que j'ai été donc à la hauteur de la situation. Est-ce que vous m'avez trouvé bien? Et ça, c'est la problématique de fond de Jacques Rançon, qui est je dois plaire, en tout cas aux femmes, je dois plaire, sinon, je n'existe plus, je ne suis plus rien. Ça, c'est la problématique de fond de Jacques Rançon. Je pense que le fait d'être une femme a joué aussi dans le rapport que j'ai pu faire sur lui. Il faut pas oublier que Rançon a nié jusqu'au moment où il s'est rapproché d'une policière, d'une femme policière, et c'est à ce moment-là qu'il a reconnu les faits. Et on m'a posé la question, effectivement, et je pense que le fait que cela ait été une femme a joué dans l'élan de sincérité qu'il a pu avoir avec elle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a créé un rapprochement avec cette femme, certainement parce qu'il a perçu qu'elle attendait ça de lui et qu'il a cherché à lui plaire. Voilà comment fonctionne Rançon.
Plongé dans l'esprit des plus grands criminels. Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
Christophe Ondelatte.
Dans la Côte B de Rançon, on trouve l'expertise psychologique de Danielle Kenny. Elle pense que si Rançon a avoué sans difficulté son premier meurtre, c'est parce qu'en garde à vue, il avait face à lui une femme flic. Il a cherché à lui plaire. Pour la première fois, cette policière, Valérie Desmaisons, major de police à la PJ de Perpignan, accepte de raconter comment elle est entrée en contact avec Rançon.
Alors, c'est pas quelqu'un de très expansif. On n'arrive même pas trop à cerner pour certains s'il est surpris ou pas surpris. Donc, il est placé en garde à vue. Et après, ses premiers mots vont être, peut-être, c'est pas moi. Mais c'est pas quelqu'un du tout de très expansif. Et donc, ce personnage-là, c'est effectivement Jacques Rançon.
Jacques Rançon, j'ai 54 ans. J'ai bossé en intérim comme cariste, et puis comme magasinier. Mais là, je suis au chômage. Je vis dans un foyer. J'ai deux fils, avec deux femmes différentes. Le premier, je l'ai vu quelques fois, mais le deuxième, jamais. Et là, avec Lolita, on a eu deux autres enfants. Mais elle s'est barrée avec un ami à nous. C'est une salope. Ça m'a rendu fou, ça. J'ai voulu la planter. Et son mec, j'ai essayé de l'écraser. Moi, je l'ai raté, ce connard. Bon, ok, j'ai déconné. Mais moi, je vous dis que j'ai rien à voir avec des histoires de filles violées et découpées, là. Faut être taré ou camé pour faire ça.
Donc, la garde à vue, c'est 24 heures qui peut être renouvelée 24 heures de plus. Donc, les premières 24 heures, plusieurs collègues le prennent en audition, essayent de discuter avec lui et restent complètement fermés à dire que ce n'est pas lui, que ce n'est pas lui, que ce n'est pas lui.
La première fois que je le vois, c'est avec ma collègue. On se déplace toutes les deux dans les locaux de la PJ à Perpignan pour aller prolonger sa garde à vue. On est dans un bureau, donc effectivement, c'est pas du tout comme dans les films, il n'y a pas de glace Tintin.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction.
On le fait désentraver, il est en face de nous, et on fait sortir les enquêteurs de mémoire. On n'est qu'avec lui dans le bureau. C'est un individu qui est physiquement assez corpulent, physiquement un peu négligé, une barbe, des cheveux un peu hirsutes, voilà, pas très bien soigné. Un individu extrêmement taiseux. Alors en plus, c'est difficile, c'est la première fois qu'on le voit, donc il faut qu'on arrive à... Bon, on explique qui on est, pourquoi on est là, est-ce qu'on vient y faire, hein. Et on essaye d'entrer en contact avec lui. On n'a jamais élevé la voix, donc ce sont des questions qui sont posées de façon assez douce, parce que on comprend très rapidement que c'est un peu comme une anémone, Jacques Rançon, c'est-à-dire que si à un moment donné vous vous appuyez trop fort, il va se refermer et puis là, c'est terminé. Donc après, faut retourner autour pour à nouveau réussir à l'atteindre. Et voilà, la violence ou la dureté dans l'interrogatoire était totalement contre-productive. Et ça, on le perçoit tout de suite. On en a l'intuition tout de suite.
Les juges d'instruction prolongent la garde à vue de Jacques Rançon de 24 heures. Et compte tenu du pédigré du bonhomme, le patron de la PJ de Perpignan demande à son équipe de ne pas le quitter de l'œil, même entre les interrogatoires, même pendant la nuit.
Moi, en fait, je m'y colle la deuxième nuit avec deux autres de mes collègues pour le garder sur cette période-là, pour qu'il soit pas amené au commissariat et qu'on l'ait clairement à vue. Donc, on le regardait toute la nuit dans sa cellule.
Valérie Desmaisons, major de police à la police judiciaire de Perpignan.
Moi, je l'avais jamais fait. J'ai 30 ans de police. J'avais jamais fait une garde à vue comme ça. Mais le patron, le directeur, voulait absolument qu'on l'ait à vue. Et puis, à un moment, dans la nuit, Jacques Ranson, qui était encore fumeur à cette époque, demande à aller fumer une cigarette. Donc, on lui accorde, parce qu'il n'y a pas de souci particulier, comme on l'accorde à d'autres, hein, c'est pas une exception pour Jacques Ranson. Et donc, on se retrouve tous les deux pendant qu'il fume, à discuter. Et alors, le ressenti que j'avais concernant cette personne, c'est que je pense qu'il en avait rien à faire des autres, des victimes, des gens, que ça l'intéressait pas. J'avais l'impression qu'il fallait surtout lui parler de lui, que c'était la seule personne qui l'intéressait, et que le reste, voilà, parce qu'on avait essayé de lui parler des familles, tout ça, ça l'avait pas du tout touché. Que les familles puissent connaître la vérité sur ce qui avait pu se passer, ça l'avait pas touché. Donc moi, j'ai pris l'option de lui parler de lui. De lui parler de sa vie, et puis de lui parler, les mots que j'ai employés, je m'en souviens, c'était « je pense que vous avez un poids depuis 17 ans sur le dos, une charge qui est lourde à poser, il va peut-être falloir aujourd'hui la poser ». Et donc on a discuté un long moment, parce que il a fumé plusieurs cigarettes, hein, parce que après même pour lui le temps était long, et au fur et à mesure qu'on parlait de lui, il était en face de moi, et je voyais ses épaules se baisser, sa tête se baisser. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est bon, quoi. C'est ça. C'est un ton de discussion calme, posé, tranquille. J'allais dire presque... Il y a une sérénité. Il y a quelque chose qui se passe. Je peux pas le décrire. Les mots sortent, de façon... instantané, ça sort comme ça, où je lui parle de sa vie. Je vais pas lui dire que c'est quelqu'un de bien et tout, pas du tout. J'ai pas du tout de bons mots pour lui, mais je lui explique que voilà, j'essaie de faire un résumé de sa vie par rapport à ce qu'on sait sur lui, donc sa vie, ses enfants, ses divorces. J'ai lui ai donné l'impression de m'intéresser à lui et que je pense que c'est ce que personne n'avait fait depuis certainement des années. Alors quand je vois les épaules se baisser, quand je vois sa tête rentrer, et quand il y a un moment il me dit la phrase, ça je m'en souviendrai, c'est « oui, je l'ai tué, elle descendait, je montais », là, j'ai qu'une envie, c'est exploser de joie, hurler, crier « yes, 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 on y est arrivé ». Et puis en fait, non, il faut pas du tout faire ça, parce que là, je vais le braquer, je vais le fermer, et tout ce qu'on s'est dit depuis pas mal de temps, ça sert plus à rien, parce que là on va l'entendre et il va se fermer. Donc je montre absolument rien, et je lui dis on va mettre ça par écrit, on va appeler votre avocat et vous allez pouvoir vous expliquer. Et il me répond oui. Et à partir de ce moment où il a commencé à dire oui, c'est moi qui l'ai fait, l'audition derrière, il a tout expliqué. Voilà, a mimé, elle est filmée cette audition et elle est voilà, il a expliqué sans aucune retenue. Il a ouvert, comme je dis, le robinet et du coup c'est parti.
Entre 1995 et 1998, ce sont trois jeunes femmes, toutes trois brunes, qui ont soit disparu, soit été retrouvées atrocement mutilées à Perpignan. Une affaire qui a traumatisé toute une ville et qui ressurgit aujourd'hui à la faveur de l'arrestation hier d'un homme de 54 ans. Un homme, Noémie Schulz, qui a été identifié grâce à de nouvelles analyses ADN, aujourd'hui bien plus poussées. Hein.
Ah oui, absolument. Au moment des disparitions, les analyses génétiques n'existaient pas. Mais depuis, les techniques ont énormément évolué. Elles sont très précises et permettent de retrouver des traces infimes d'ADN. Une avancée que les familles des disparus ont toujours espérée, comme l'explique leur avocat, Maître Nicolo.
On a toujours compté d'abord sur l'évolution de la science. Et on s'est dit que peut-être un jour, il y aurait un déclic. Peut-être parce qu'on a continué à se battre, à demander des investigations, à motiver les juges d'instruction et la PJ aussi. Je pense qu'on était convaincus que ça aboutirait et aujourd'hui, on est sur la voie d'aboutir au moins pour un meurtre.
On de la traconte.
Côte B sur Europe 1.
Après avoir avoué le meurtre de Mokhtaria Shaib, 19 ans, Jacques Ranson confesse celui de Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans. Il l'a éviscéré, décapité, et il lui a tranché les mains. Face à la juge d'instruction, Jacques Ranson se souvient parfaitement de ses crimes.
Jacques Ranson, une fois qu'il est mis en examen, il va être placé en détention provisoire. Il va demander à être placé, à sa demande, à l'isolement en maison d'arrêt. Donc ça veut dire qu'il voit personne.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction.
Il voit personne et les seuls moments où il rencontre un peu de monde, où il voit autre chose que les quatre murs de sa cellule, c'est quand il est extrait pour venir dans le bureau des magistrats instructeurs. Donc ça va participer aussi au lien qu'on va réussir à créer avec lui, qui est un lien ténu hein, quand même, hein, parce que c'est tout au long de l'information judiciaire, à aucun moment il va quand même s'épancher longuement sur ses états d'âme et ses modes de fonctionnement. Il va répondre aux questions avec parcimonie, il va nous bluffer par sa mémoire. C'est quelqu'un qui va être en capacité de vous fournir des détails très précis sur les faits, hein. Il y a un certain nombre de détails qu'il nous donne, s'il nous le donne pas, on ne l'aurait jamais su. Et il va être par exemple capable de nous dire, 17 ans après les faits, comment sa première victime était habillée. Il va être capable de nous dire très précisément la couleur du vêtement, de son blouson, de sa... enfin voilà. Il va nous donner très précisément sa tenue vestimentaire. Non. L'hypothèse qui a été formée et qui restera qu'une hypothèse, hein, je pense qu'il y a eu des ruminations. En fait, je pense qu'il a revécu les scènes d'agression très souvent dans sa tête. Et je pense, mais là aussi, ça reste une hypothèse, je pense qu'il est revenu sur les scènes de crime, après les faits, pendant plusieurs années.
Mais qui est vraiment Jacques Ranson, 54 ans, magasinier au chômage, à son domicile? Ce foyer où il a été interpellé, ses voisins peinent à comprendre.
Une personne sans espoir, voilà. Monsieur tout le monde, parfaitement correct. Tout à fait correct. Voilà, qui vivait sa vie, qui essayait de vivre sa vie tant bien que mal, mais un monsieur sans problème. Voilà.
Et pourtant, l'homme avait un lourd passé de délinquant sexuel.
Code B1. Casier judiciaire de Jacques Ranson. Août 1999. Agression sexuelle ayant entraîné une lésion. Juin 1992. Viol commis sous la menace d'une arme.
Sur les passages à l'acte, c'est intéressant aussi de les mettre en perspective avec la condamnation en 92 pour viol. Parce que c'était déjà le même processus. C'est-à-dire que... Jacques Ranson, il chasse la nuit sur les premiers faits à pied parce qu'il n'a pas encore de voiture. Sur les deuxièmes faits, il a une voiture. En 92, il a une voiture. Donc il chasse soit à pied, soit en voiture. C'est un individu qui va se faire opportuniste. C'est-à-dire que voilà, il déambule dans les rues et à un moment donné, quand il va croiser une jeune femme qui peut être en position d'isolement, de solitude, où il y a un passage à l'acte possible sans trop de risques, il va être dans le passage à l'acte. Donc au départ, ce qui va le motiver, c'est le viol. Mais comme il dit, il dira jamais je viole. Il dit je fais l'amour. Pour lui, voilà, c'est une façon d'avoir des relations sexuelles en faisant aussi l'économie de savoir si l'autre prend du plaisir ou pas.
Parce que c'est quelqu'un qui a des troubles sexuels, me dit-il.
Daniel Cani, experte psychologue.
Il se définit comme insuffisant, c'est-à-dire éjaculateur précoce et donc incapable de satisfaire une femme. Cela le renvoie à une image de dévirilisation contre laquelle il va s'ériger de la façon que l'on sait, donc avec ses viols et ses meurtres, de façon à essayer de la compenser comme il pouvait, comme il a pu. Très mal, bien entendu.
Code B14. Rapport psychiatrique des docteurs Franck et Eisenberg. Pour Jacques Ranson, La sidération de sa victime lui procure un sentiment de toute-puissance et de domination qui le rassure. Sa satisfaction va être complétée par l'obéissance de sa victime. Il nourrit un fantasme selon lequel, de toute manière, la victime, lors du rapport sexuel imposé, va tout de même ressentir une certaine jouissance masochiste.
Si la jeune femme accepte d'être violée en quelque sorte, si elle ne proteste pas, si elle ne refuse pas...
Daniel Cani, experte psychologue.
Eh bien, je suis très heureux, je suis gratifié, je me sens puissant, là où je ne l'étais pas dans la vie réelle. Donc il est toujours dans le fantasme, encore une fois. Et je vais la laisser vivre, il va la laisser vivre. Donc la première, Nathalie... Il viole Nathalie. Il ne peut pas protester. Bon, elle a peur, évidemment. Elle ne bouge pas. Il va réussir à la violer. Et il va partir en lui volant son sac à main. Et elle va porter plainte. Il imagine, c'est quand même un cas assez incroyable, il imagine qu'elle porte plainte pour le vol du sac et pas pour le viol. Alors qu'elle porte plainte, bien entendu, pour le viol, d'abord. C'est une éventualité qui ne traverse pas son esprit. Que quand il arrive à violer, eh bien, qu'il cause un préjudice et que la personne, eh bien, évidemment, était en désaccord. Il est dans un fantasme de reconstruction de soi, de compensation de son image, qui consiste à parvenir à avoir une relation sexuelle avec une femme, quelles que soient les conditions. Ce sont des relations imposées, mais il y parvient, et dans ces conditions, eh bien, il est rehaussé dans son image, hein, il devient puissant, il devient beau, et si elle refuse, elle va me renvoyer à cette image du petit malheureux de village que j'ai toujours été, et à ce moment-là, la frustration va être tellement insupportable qu'il va la tuer.
Code P14. Rapport psychiatrique des docteurs Frank et Hachzenberg. La construction d'une sexualité déviante est à rechercher dans l'histoire personnelle de Jacques Ranson. Son père lui a donné une image d'un homme dominateur vis-à-vis d'une femme qui devait être soumise par la violence.
Son père est décrit comme un homme violent, hein. Violent vis-à-vis de sa femme, je pense aussi violent vis-à-vis de Jacques Ranson.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction.
À la faveur aussi de ses alcoolisations. Alors, quelle est l'image qu'il s'est formée des modèles parentaux, un modèle de domination de l'homme sur la femme, ça, très évidemment, mais on a le sentiment, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qu'il y a dans cette commission des faits une forme de haine de la femme.
L'experte psychologue Daniel Cani identifie la première agression sexuelle commise par Jacques Ranson.
La première agression sexuelle a été à l'âge de 12 ans sur une petite camarade de classe.
Daniel Cani, experte psychologue.
Qu'il a essayé d'étrangler parce qu'elle s'était opposée à son entreprise. Donc on retrouve le Ranson plus âgé, on le retrouve déjà dans cette, disons, cet acte fondateur de tous ces passages à l'acte à venir. Donc Ranson est quelqu'un qui porte en lui cette problématique très perverse et avec cette dimension d'agression sexuelle et de violence sexuelle et de désir qu'on impose à l'autre. Il porte cette problématique en lui depuis très longtemps. Alors on peut se prendre à imaginer que s'il avait été fortement réprimé, puni, sanctionné à ce moment-là, peut-être que les choses auraient changé. Enfin, ça, c'est une supposition. Mais justement, ça n'a pas été le cas. Ça a été banalisé, ce premier acte a été banalisé. Alors, il y a eu certainement un sentiment d'impunité qui n'a rien arrangé, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la façon de faire de Jacques Ranson par la suite.
On découvre quand même qu'à partir du moment où il va être sexuellement actif, il va être agresseur sexuel.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction.
Et que la première agression qu'on a réussi à retrouver dans sa chronologie, il a 16 ans. C'est quand même assez intéressant, c'est qu'on retrouve dans cette première agression qu'il commet quand il a 16 ans, en germe, les actes qu'il va commettre après sur les victimes de notre dossier. Donc Jacques Ranson a à peu près 16 ans. Et il y a une jeune fille du village qui, pour aller à l'école, je crois, doit traverser un bois. Et avec un ami à lui, il va l'attendre. Donc il a déjà repéré qu'elle passait là régulièrement. Donc il y a l'idée de chasse, hein, déjà. Donc il se cache en attendant qu'elle arrive. Et donc elle arrive et il va tenter de l'agresser sexuellement. Et lui porter la main au cou sur une tentative de strangulation. Donc on retrouve la chasse, le guet-apens, j'attends ma victime, évidemment la connotation sexuelle, et la strangulation, c'est-à-dire en germe quand même l'intention homicide. La jeune fille va se libérer, va en parler à son père, qui va débarquer chez les Rançons peut-être le soir même. Jacques Ranson va prendre une rouste et ça va s'arrêter là et ça sera jamais judiciarisé.
Code B6. Rapport de l'experte psychologue Daniel Cani. Jacques Ranson tue sans état d'âme. Après ses crimes, il n'est pas sidéré ou consterné par ce qu'il a fait. Il efface méthodiquement les traces, puis n'y pense plus et il oublie. La dimension de culpabilité n'est pas intégrée. J'aurais fait du mal. Mais moi aussi, je me suis fait du mal. J'ai été en prison. Je leur ai fait du mal, mais pas plus.
C'est quand même un psychopathe, Ranson, hein, ça, il faut bien le comprendre.
Daniel Cani, experte psychologue.
Que ce soit clair, le psychopathe n'a aucune empathie. C'est quelqu'un qui n'est pas en lien avec l'autre. Il n'est en lien qu'avec lui-même et sa propre satisfaction, son propre besoin à satisfaire. C'est ça, on est dans une dimension d'égocentrisme très fort. Le psychopathe, c'est celui qui va agir sur une impulsion qu'il ne peut pas réfréner et qui renvoie à une frustration. Là, en l'occurrence, la frustration identitaire, narcissique, sexuelle, hein, c'est l'analyse que j'ai faite. Donc le psychopathe n'est pas du tout dans une dimension d'empathie. Le psychopathe n'est pas, en tout cas chez Ranson c'était comme ça, il n'est pas dans une relation d'échange du tout. Il est dans une relation de satisfaire ce dont il a besoin lui pour se sentir fort, puissant, aimé, beau, etc. Mais il n'est pas du tout dans une relation d'échange. Tout ce qu'il veut, c'est parvenir à, comme il le dit, faire l'amour à ses femmes, et s'il n'y parvient pas, il tue sans aucun état d'âme, sans aucune conscience et sans aucune culpabilité. Bien après tout ça, il peut dire « Oui, bon, j'ai fait du mal, mais j'ai pas fait tellement de mal que ça. Moi aussi, je me suis fait du mal. Moi aussi, je suis quelqu'un de malheureux. » Enfin, c'est quand même incroyable de mettre sur le même plan des femmes à qui on a causé un préjudice pareil, et sans parler de la famille et le propre malheur qui est le sien. Voilà. Donc il n'y a pas de place pour l'autre dans la dimension relationnelle de Jacques Ranson. Voilà, ça c'est clair.
On de la raconte.
Code B sur Europe 1.
Dans la code B du dossier d'instruction de Jacques Ranson, on retrouve le rapport de l'experte psychologue Daniel Cani. Elle a tenté de comprendre pourquoi il avait mutilé les cadavres de ses victimes, pourquoi il avait découpé leurs seins et leurs parties génitales, et pourquoi il avait décapité et tranché les mains de Marie-Hélène Gonzalez. Pourquoi tant de monstruosité ?
Ce qu'il dit, il le dit en particulier pour ce qui concerne Marie-Hélène Gonzalez.
Daniel Cani, experte psychologue.
Il a découpé aussi les organes sexuels de Marie-Hélène Gonzalez. Il a aussi fait des découpes dans le corps autre. Il a fait des incisions avec son couteau. Il dit, lui, qu'il a... Excusez-moi, hein, c'est extrêmement choquant ce que je vais dire, mais c'est lui qui parle, qu'il a ouvert en quelque sorte un peu le corps pour qu'il pourrisse plus vite. C'est comme ça qu'il le dit, pour que le corps pourrisse plus vite. Voilà, et qu'on ne le découvre pas assez vite.
Moi, quand j'ai rencontré Monsieur Ranson la première fois en détention à Perpignan, spontanément, j'ai regardé ses mains.
Maître Brivé Gallo, avocate de Jacques Ranson.
J'ai regardé ses mains parce que je me suis dit, finalement, ses mains, elles ont été... il les a utilisées pour travailler, il les a utilisées pour élever ses enfants, pour manger, pour vivre. Et il les a, comme tout un chacun, finalement, des actes très, très communs de la vie quotidienne. Et il les a utilisés aussi pour découper des corps humains. Et pendant l'espace de quelques instants, je me suis, euh, je me suis non pas posé des questions, mais en tout cas ça m'a troublé cette voilà. On a des mains tous les deux, chacun les a utilisées à sa façon, et ces mains-là ont commis des actes d'une banalité déconcertante dans la vie quotidienne, comme n'importe qui, mais aussi des actes d'une horreur abyssale.
Ordonnance de mise en accusation de Jacques Rançon. Jacques Rançon déclare n'avoir ressenti aucune excitation à procéder aux mutilations. Cela ne lui a provoqué aucun plaisir. Il cherchait à éliminer ses empreintes laissées sur le cadavre.
Ce qu'il a fait n'a pas de sens. Voilà, c'est, il n'y a pas de sens à chercher à ce qu'il a fait. C'est un acte brutal, sans rationalité, avec une volonté pour sa part strictement utilitaire. Ce n'est certainement pas suffisant pour les familles, ni pour le public qui entend cela, mais c'est peut-être cela, et cela confirme cette notion très, très forte de banalité du mal. C'est-à-dire que, effectivement, il n'y a pas à chercher l'extraordinaire ou l'incroyable dans la commission de certains actes négatifs. Ça n'a pas de sens.
Je pense que c'était en fait pour lui une porte de sortie.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction.
Pour dire, parce que le cœur de ce dossier, c'est évidemment les découpes des victimes. Hein, et c'était une porte de sortie plus confortable pour ne pas passer pour un monstre. En disant, mais je n'ai pas fait ça par plaisir sadique, je l'ai fait par nécessité judiciaire pour qu'il n'y ait pas de preuve de mon ADN sur les victimes. C'est une explication, à mon sens, de confort, qui résiste pas d'ailleurs à l'interrogatoire, parce que je me souviens encore lui avoir posé moi-même la question sur sa deuxième victime, en disant, mais vous l'avez touché à tel endroit, oui, oui, et puis à tel endroit, et ce sont des endroits qui n'ont pas fait l'objet de découpe. Donc ça veut dire que l'explication utilitaire, elle tombait. Donc je pense qu'il y a quand même une forme de plaisir, d'appropriation et un ressort psychologique dans les découpes qui sont réalisées sur les victimes.
Cette fameuse découpe d'organes, elle est très intéressante parce que c'est très choquant.
Daniel Cani, experte psychologue.
Quand il a tué Mokhtaria Shaïb, il l'a tué avec son couteau, le couteau avec lequel il l'avait menacée parce qu'elle s'est refusée. Elle s'est refusée. Il a tué de façon extrêmement brutale. C'est comme ça qu'il décrit son acte, d'accord, dans le moment d'échange avec lui. Quand je l'ai rencontré, c'est un acte extrêmement brutal. Il ne réfléchit pas. Elle le rejette, il tue. Et après, il va découper les seins et le sexe de cette jeune fille. Et il va partir avec ces organes-là, qui sont des organes sexuels. Bon, alors l'analyse que j'en ai faite, c'est que il n'a pas pu avoir une relation sexuelle avec elle, c'est-à-dire la posséder. Et donc il va partir avec ce que j'ai appelé des trophées, des trophées, les organes sexuels de cette jeune fille, une sorte comme illusion de possession sexuelle. À défaut de l'avoir possédée, aider en ayant une relation sexuelle avec elle, en la violant, eh bien, il va s'approprier ses organes sexuels. C'est une autre façon, une façon plus symbolique de posséder cette jeune fille. Il ne va rien en faire puisqu'il va les jeter un peu plus tard, mais il aurait pu aussi bien les mettre dans du formol et les garder comme ça chez lui. C'est une hypothèse que je m'autorise à formuler.
Rapport psychologique de l'experte Daniel Cani. Si Jacques Rançon a découpé le sexe et les seins de ses victimes, ça n'est certainement pas pour effacer des traces. Mais c'est un trophée censé témoigner de sa virilité, de ce qu'il s'est rendu maître de la femme et qu'il a été le plus fort. Un an et demi après l'arrestation de Jacques Rançon, la juge d'instruction organise une reconstitution pour tenter de comprendre comment Rançon a tué Marie-Hélène Gonzalez. Et il se souvient de tout.
Et alors, ce qui est intéressant chez Jacques Rançon, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais il a une passion pour les voitures.
Stéphanie Pradel, juge d'instruction.
Et donc, il est très attentif au modèle de véhicule, etc. Et c'est pour ça qu'il avait pu nous décrire avec précision le véhicule qu'il utilisait à l'époque des faits. Et on retrouve le même modèle. Exactement le même modèle. Donc on commence la reconstitution, on la fait en nocturne. Donc c'est vrai que le fait que ça soit en nocturne, ça rajoute un petit peu à l'ambiance. Hein. Donc évidemment, il y a les enquêteurs, il y a les avocats, il y a, bon, il y a du monde, une médecin légiste hein, qui est présent. Et donc le premier travail, c'est de remettre le véhicule à peu près à l'endroit où il était 18 ans plus tôt. Comme je vous le disais, il a très très bonne mémoire, Monsieur Rançon, qui va m'expliquer exactement où faut remettre le véhicule, dans quel sens, etc. Et commence la reconstitution. Et immédiatement, il rentre dans le véhicule et il trouve instinctivement, mais parce qu'il connaissait très bien cette voiture, ce modèle de véhicule qu'il avait conduit pendant des années, mais des années auparavant. Et immédiatement et de façon machinal, il va se saisir de la poignée qui permet de mettre le véhicule en position couchette. Et là, ce petit véhicule où on se demandait comment il avait pu violer sa victime dans ce petit véhicule, celui lui aussi très corpulent, eh ben après cette manipulation, on a tout compris. Et je vais lui demander de refaire les gestes, de nous expliquer ce qui s'est passé. Donc il y a quelqu'un qui joue le rôle de la victime, et il y a des moments sur cette reconstitution où vous voyez que le regard change. Il y a un voile qui passe, il a plus du tout le même regard, et il a je pense c'est le regard qu'a dû voir la victime au moment des faits. Et on voit qu'il revit le truc. On est en 2015 et il est en train de revivre ce qui s'est passé en 98. Il est capable de nous dire, bon ben voilà, elle a fait tel geste, elle s'est mise dans telle position. Moi, j'ai pris le fil, parce qu'en fait, il va l'étrangler avec un fil électrique qui était dans son vide-poche. Donc voilà, j'ai pris le fil électrique. Et de nous donner des détails. Elle fait pipi sur le siège au moment où je l'étrangle, etc. Enfin, la question lui est posée, d'ailleurs, à votre avis, pourquoi elle fait pipi sur le siège? Alors, il y a une explication aussi qui peut être technique et physique, hein, c'est l'ouverture des sphincters par la strangulation. Il va nous dire, je pense que c'est parce qu'elle a vu la mort arriver. Et il le dit de façon très froide. Et donc il va, à certains moments de son récit, quand il nous raconte ça, c'est là où le regard se durcit et on voit qu'il est en 98, quoi. Il est plus en 2015. Après, il va nous expliquer, une fois que sa victime est décédée, comment il sort le corps, parce que Marie-Hélène a été notamment décapitée. Et il va expliquer qu'il utilise un petit opinel, ce qui explique d'ailleurs les constatations médico-légales. Et il va s'aider de la lumière du plafonnier de son véhicule, hein, parce qu'il va ouvrir la portière, cette faible lueur, et de la lune. Et c'est comme ça qu'il y voit suffisamment pour faire les découpes post-mortem de sa victime. Et ce soir-là, il y avait une lune très éclairante et on a compris comment ça avait été possible. Moi, l'album photo du second homicide, c'est difficilement soutenable quand même. Hein. La scène de crime, moi j'ai fait beaucoup de scènes de crime, hein, c'est difficile à regarder. Et vous voyez, on a élucidé en 2014, on est encore en 2022 en train d'en parler. Et j'ai quand même des souvenirs assez précis de ce dossier. En plus, ce sont des faits qui sont encore une fois hors normes, qui sont... Donc il y a des images qui restent, il y a des... Oui, on se le trimballe. Et je pense que je vais me le trimballer encore longtemps.
Devant la cour d'assises de Perpignan, sans surprise, Jacques Rançon écope de la réclusion criminelle à perpétuité. Après son procès, il est rattrapé par une autre affaire. Un cold case vieux de 30 ans. Le viol et le meurtre d'Isabelle Ménage, près d'Amiens, dans sa région natale. La jeune femme avait subi les mêmes mutilations. Le tueur de la gare avouera ce crime, et puis il se rétractera. Et une fois encore, il sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. C'était On de la raconte, côte B. Rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Boris Pachinski. Le podcast de ce programme est disponible tous les samedis, dès 6h du matin. Je vous dis à lundi, 14h. Salut.
Les plus grands criminels, vus de l'intérieur, Ondelat raconte.
Côte B. Christophe Ondelat sur Europe 1.